Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebeketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 19 février de 18 à 21h, en différé jeudi 20, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Serge. Résistons. Je résiste.
Bonsoir Monsieur Goffman.
Bonsoir Serge Lebeketch. Bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie dans le monde entier et au-delà.
Il est très bien, il est très pro. Hein. Bonsoir Bernard Anthony.
Mais je n'ai rien à ajouter au bonsoir de Patrice Goffman. Bonsoir à tous.
Alors, avant de commencer cette conversation, je voudrais raconter une petite histoire qui vient de m'arriver. Je viens de rencontrer un mythe.
Un mythe.
Oui, parce que pour moi, c'est un mythe. J'étais petit garçon, je regardais la télévision quand j'étais petit. La télévision, à l'époque, c'était une boîte, une petite boîte cubique avec un écran arrondi, tout bombé et tout gris.
Et tout noir.
Où il neigeait. Et on regardait un monsieur qui s'appelait Jean Noin. Et vous savez que là, cette année, c'est le 50e anniversaire de l'émission de Jean Noël qui s'appelait...
Les chandelles.
36 chandelles. Je ne savais pas que j'étais si vieux que ça.
Alors, c'est dramatique. On ne rajeunit pas.
Et alors, qui j'ai rencontré, là, devant la radio, Dominique Noël, le fils de Jean Noël. Et alors, Dominique Noël a eu l'idée, que je trouve géniale, de monter au théâtre, alors je l'annonce, donc à la Comédie Caumartin, un spectacle avec des textes de Tristan Bernard, Franck Noin, qui devait être son oncle, je pense, ou son grand-oncle.
Son grand.
Son grand-père?
Ou le grand-père?
Ah, mais oui, c'était peut-être son grand-père.
C'est le grand. Je sais pas.
Et Sacha Guitry. Oui. Donc, du 11 au 29 mars 2003, les mardis, mercredis, jeudi, vendredi à 18h précises et samedi à 15h précises, il présentera ce spectacle. Alors, il est drôle parce que le tract dit Dominique Noin meuble, 70 minutes d'entracte. Ça s'appelle, c'est drôle, non?
Je suis très inquiet, Serge, parce que je me souviens d'un mot de Franck Noin qui va prendre part à ce spectacle, et je crois que c'était les femmes blondes ont le cœur noir. Ce genre de plaisanteries ne sont plus tellement au goût du jour.
Bah, on peut pas dire le contraire.
Donc, non, surtout pas moi.
Non, mais c'est charmant. François, il a dit d'autres choses qui étaient plus aimables à l'égard des dames. Et puis Guitry a dit des choses tellement merveilleuses, et Tristan Bernard aussi. Donc c'est Tristan Bernard qui, quand il était au camp de Drancy, les amis étaient venus le voir en lui disant « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Il a répondu « Oui, un cache-nez. » Ça, c'est quand même de l'humour, non hein? C'est magnifique, ça c'est des... L'humour dans ces cas-là, c'est digne de l'humour des aristocrates dans les prisons de la conciergerie, dans les cachots de la conciergerie. Hein. Voilà, donc, si vous voulez passer un moment délicieux, je pense, avec Dominique Noin, je rappelle que c'est à la Comédie Comartin, du 11 au 29 mars, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à 18h, et samedi à 15h, vous irez.
Ça m'étonnerait parce que je sors peu.
Vous avez peur de tomber dans les escaliers.
Voilà.
Donc, enfin, et les auditeurs ont compris que Victoria était revenue. Donc,
je suis revenue.
En un seul morceau.
En un seul morceau.
J'essaie. Même avec un morceau supplémentaire.
Et j'essaie d'y rester.
Ça vous va très bien, la canne, finalement. Ça vous donne un côté Sarah Bernard.
Ah, bah, dites. C'est ce que j'ai l'impression d'avoir entendu un moment, mais maintenant, ça y est,
non, mais
je les
pas
ai.
À quel âge c'est peut-être Sarah Bernard à 30 ans.
Je vais l'assommer définitivement. Bon.
C'est à 30 ans, voilà. D'autres, ben non, les annonces, autrement, c'est à peu près tout, je crois. Alors, j'ai demandé à Bernard Anthony de venir, parce que ça fait très très longtemps, je crois que ça fait combien de temps, Bernard, vous n'êtes pas venu à ce micro?
3-4 ans, je ne sais pas, beaucoup, beaucoup trop.
Et je me suis dit qu'après tout, c'était le moment ou jamais de rattraper ce retard, parce que vous dépensez d'une façon étonnante pour quelqu'un qui n'a pratiquement... Ou c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, parce que vous n'avez plus qu'un mandat.
Oui, je suis libéré de mes activités européennes, ce qui me permet de continuer beaucoup d'autres activités, parce que ce n'est un début, continuons le combat.
Oui, c'est un début qui commence à durer un petit peu. Donc, vous organisez des manifestations, des rencontres, vous avez fait réaliser un projet de loi, vous publiez un projet de proposition de loi, il faut dire, pour être parfaitement clair, vous publiez Reconquête, vous préparez une grande réunion d'amitié française, on reprend la tradition des grandes réunions d'amitié française.
Oui, tout à fait.
Et puis vous continuez le forum social d'Orange. Enfin, finalement, jamais autant travaillé.
C'est ça.
Et puis, la première chose dans le temps, c'est donc une manifestation qui est organisée, qui est prévue demain, jeudi 20 février, à 19h30 sur le parvis du Trocadéro. Alors, cette manifestation, elle est organisée contre un événement monticule, dira-t-on, dans l'apparence en tout cas, qui est l'invitation, c'est tellement renversant qu'on a peine à y croire, même si on s'attend à tout de la part du personnage, mais l'invitation lancée par Chirac à Mugabe. Alors, quand j'ai entendu ça, je dis, c'est pas vrai, c'est un gag, il fait pas ça, Mugabe c'est un fou, c'est le Hitler nègre, il a tenu des propos, il y a un site internet qui s'appelle Racisme Anti-Blanc, où il rapporte les discours de Mugabe, mais c'est ahurissant, mais c'est ahurissant.
Il d'ailleurs voue un véritable culte à Hitler.
Bah, bien sûr.
Il connaît plus ou moins bien, mais enfin, il se veut
le peu qu'il en sait, ça lui plaît beaucoup.
Et cette ouverture de Chirac à Hitler, fut-il noir, est quand même tout à fait stupéfiante.
Oui, c'est un peu surprenant. Alors, on va pas dire trop de mal de Chirac, parce que quand même, pour une fois qu'il fait quelque chose de bien.
Par ailleurs.
Hein? Par ailleurs.
Par ailleurs. Bon. Donc, je peux peut-être dire un mot de la manifestation.
Alors, je voudrais d'abord que vous nous parliez de Mugabe, parce que Moi, j'ose à peine en parler. Moi, c'est non, tellement un personnage.
Mugabe, comme tous les grands exterminateurs, est finalement fils de la France et de ses modèles. L'homme qui a le mieux compris, je pense, le populicide, comme il a baptisé le génocide vendéen, c'est Gracchus Babeuf, qui était un homme un peu fou, le premier des communistes modernes en tout cas, mais qui était un homme aussi de générosité et qui savait ce qui se passait en Vendée d'abominable avec Westermann, les colonnes infernales de Thurot et tout ce que nous savons. Eh bien, Babeuf a donné une explication de cela. Pour les révolutionnaires, il y avait trop de monde dans le pays. Ils pensaient que notre sol français ne pouvait pas produire suffisamment pour nourrir une population dont la démographie, à l'époque, était forte. Et donc, la clé, c'était qu'il fallait moins de monde. Mugabe est exactement sur le modèle des génocideurs de la Vendée et de la France en 93. Et donc, que fait-il? Eh bien, d'abord, bien sûr, il se venge de ces fermiers blancs qu'il n'aime pas, j'allais les dire, pour des raisons spontanément racistes, mais il considère qu'il y a trop de monde, il l'a dit, beaucoup vont mourir. Alors là, nous sommes dans la tradition des grandes famines, les famines organisées par les Anglais, il faut quand même pas l'oublier, en Irlande, hein, la grande famine qui va tuer 800 000 Irlandais, et puis ensuite les famines bolcheviques.
Pas les famines, mais le génocide des Indiens d'Amérique, faut pas oublier quand même au passage.
Oui, mais donc les famines de... notamment en Ukraine, de 1926, de 1936, etc. Bon, donc Mugabe est véritablement un exterminateur. Alors, l'argumentation, c'est de dire qu'il faut dialoguer avec tout le monde. Enfin, c'est ahurissant quand on songe au refus, qui était celui de Jacques Chirac et des autres, de traiter avec... l'Afrique du Sud, jadis, parce qu'enfin, tout de même, les dirigeants de l'Afrique du Sud, même s'il en réprouvait la pratique de l'apartheid, à côté de Mugabe, c'était des Saint-Vincent de Paul ou des Mères Teresa, en reçoit un véritable cinglé, hein, donc qui envoie la mort, on ne sait pas combien, il faudra faire le bilan plus tard. Enfin, c'est un Pol Pot. Mais ouais. Ça n'est pas nouveau chez Chirac, parce que chez Chirac, tout ce qui est crime, communiste d'extrême gauche, il prend, souvenons-nous, de la réception de Lécapieux, parce que Lécapieux, qu'il a reçu, ce que Jospin ne voulait pas faire, comme un chef d'État vietnamien, Lécapieux avait au Vietnam ordonnancé lui-même directement les massacres de Hue, hein, avec des centaines de personnes, et notamment des bouddhistes enterrés et des catholiques, religieuses et religieux enterrés vivants. Voilà donc, alors nous ne pouvons pas accepter cela. La politique africaine de la France est un désastre. Demain, c'est le sommet traditionnel. On aura donc 35 chefs d'État qui vont être reçus, et parmi eux, donc, Monsieur Mugabe. Nous parlerons aussi demain, dans notre manifestation, de ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire, qui nous paraît totalement irresponsable. La France a violé ses engagements et prend le risque, là, d'une avancée de l'islam que nous savons aujourd'hui continue en Afrique. Mais il n'y a pas qu'en Afrique, c'est chez nous aussi.
Il y a une dimension, effectivement, qui est très intéressante dans le travail de Mugabe, c'est il participe à cette obsession antique, en tout cas ancienne, du nécessaire populicide. Vous le disiez à l'instant, il y a effectivement cette donnée dans l'histoire du monde de gens qui considèrent qu'il y a trop de monde. Alors c'est le Club de Rome, par exemple, qui trouve qu'il y a trop de gens, ou c'est Kissinger qui dit qu'il faut réduire la population du globe à 500 millions d'habitants, ou c'est Rockefeller III qui dit « Oh bon, on peut aller jusqu'à 2 milliards ». Et dans le Libre Journal, là, il y a un papier d'Igor Verhoeff, mon excellent camarade Igor Verhoeff. Vous devriez jeter contre le mur violemment le téléphone. C'est le seul moyen de les faire taire.
Ça y est, cher Serge, j'ai pu le faire taire.
Je suis obligé d'interjeter quelque chose aussi. parce que je me creusais la tête depuis un moment pour savoir comment déstabiliser quelqu'un d'aussi talentueux que Romain Marie. Et je suis émerveillé de constater qu'il a son petit déstabilisateur personnel avec lequel il se bat tout en parlant.
Oui, d'ailleurs, il faut remarquer, là, on voit la maîtrise du débatteur, qui, vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas de télévision, mais tout en nous expliquant sa pensée, était en train d'essayer de se battre avec ce téléphone pour l'empêcher de nous faire une gamme de sons absolument invraisemblable. Bon, alors revenons à Trocadéro, journal, qui est une chose importante.
Je rappelle donc que la manifestation a lieu demain au Trocadéro à 19h et il faut qu'il y ait beaucoup de monde.
On va en parler tout de suite, on va donner des indications, mais ce que je veux dire, c'est que il y a donc un papier de mon camarade Igor Verov. Je signale aux auditeurs, je vais faire un aveu, que Igor Verov, c'est un pseudonyme collectif. Parce que les gens me disent, pourquoi on ne voit jamais Igor Verov? Bah, tout simplement parce que vous le voyez tout le temps. Nous sommes plusieurs à travailler sur des sujets. Et comme on va pas mettre 4 signatures dans un papier de 2 pages, ça serait grotesque, on a adopté un pseudonyme collectif. Voilà. Mais là, donc, il y a un recensement des différents comportements génocidaires qui ont été mis en route depuis quelque temps et qui obéissent pas du tout à une haine raciale ou à une volonté de faire du mal. C'est absolument pas ça. Et ils ont des mots extraordinaires. Il y a un rapport qui a été présenté au groupe Bilderberg il y a déjà un certain nombre d'années, et dans lequel ils disent cette chose ahurissante quand on y pense, pour prendre le contrôle du monde et réduire de dangereux niveaux de consommation, il faut utiliser le procédé du génocide bienveillant.
C'est admirable.
C'est fabuleux, l'expression ouais. Génocide bienveillant.
On n'arrête pas le progrès. Ben, on n'arrête pas le progrès.
Alors, parmi les méthodes du génocide bienveillant...
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Et ça, c'est pas une des méthodes du génocide bienveillant, mais enfin, parmi les méthodes du génocide bienveillant, il y a la guerre tranquille.
Et oui.
Et l'autre méthode, c'est naturellement la lutte démographique. Et puis, alors la guerre tranquille, c'est exactement, c'est ça, c'est par exemple l'Irak. Il s'agit d'éliminer du monde. C'est donc toutes ces guerres qui n'ont pour but que de tuer des gens. Et il y a un gars qui s'appelle, comment s'appelle-t-il ce garçon, qui fait un aveu extraordinaire. Il dit, attendez, je me trompe de page. Il dit tout simplement... Il faut le seul moyen de réduire la population, c'est pas compliqué. Il faut lancer les hommes dans la guerre et faire tuer le maximum de femmes en âge de procréer.
Article extrait du Libre Journal numéro 286 qui paraît demain.
Qui vient de sortir, voilà, c'est ça. Qui est sorti ce matin. Et donc cette idée, elle a fini par envahir les esprits l'esprit d'un personnage comme Mugabe, qui organise effectivement au Zimbabwe le génocide de la population blanche qui était implantée depuis très longtemps, mais y compris d'ailleurs de sa propre population, ce qui vous a amené à réagir donc contre l'invitation qui a été lancée par Chirac.
Alors, et avec exemplarité, parce qu'il faut le dire, les choses commencent de la même façon à ce moment même en Namibie. Alors j'ai le souvenir d'un voyage il y a peu de temps en Namibie, c'est un pays splendide, béni des dieux, très peu peuplé parce que la Namibie c'est très peu de choses, c'est une côte et puis coincé entre le désert de Namibie et le Kalahari, c'est Windhoek, mais c'était un petit paradis avec des fermes de plusieurs milliers d'hectares parce que les animaux broutent là très peu de choses, mais ce sont des fermes qui faisaient vivre ce pays magnifiquement, dont nous avons affaire à une perversion à l'état pur, mais je pense que l'exemplarité occidentale, vous voyez, nous sommes porteurs du meilleur et du pire. Mugabe, une fois de plus, c'est notre enfant. C'est l'enfant de la Révolution française, d'une certaine manière encore.
Mais là, on est dans le cœur de la question raciste. C'est-à-dire, on voit bien que, enfin, on ne peut pas imaginer une seule seconde que Chirac aurait accepté de recevoir un dictateur blanc qui aurait organisé le génocide des nègres dans son pays. Ça aurait été absolument impossible.
Non, mais
le contraire, tout le monde l'accepte, parce qu'après tout, on a l'impression que c'est justifié, parce que c'est une espèce de vengeance.
Je crois qu'il y a du racisme. Alors là, moi, je ne vais pas jouer les psychanalystes, parce que je suis tout à fait contre les psychanalystes, mais c'est du racisme parfaitement inversé. Mais c'est du racisme tout de même. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent? C'est qu'un Mugabe blanc, on ne le recevrait pas. Parce qu'il est noir, il y a des circonstances atténuantes. En réalité, c'est ça.
C'est ça.
Donc, c'est donc une attitude objectivement de mépris raciste. Hein, il appartient à une race inférieure, il massacre, donc je le reçois, parce qu'il a encore, en quelque sorte, cette excuse d'être noir. Ça, c'est du racisme. Et c'est, une fois de plus, le président de la griffe qui parle, parce que pour nous, nous traquons tous les racismes, y compris, et surtout ceux que l'on ne traque jamais. Et
je crois qu'il y a des Africains qui l'ont très bien compris, puisque je crois qu'il y a des Africains qui participent à la manifestation demain.
Oui, il y aura demain des Africains avec nous, parce qu'ils comprennent parfaitement que cette attitude relève du racisme objectif, comme on dirait en termes scientifiques.
Alors l'autre question qui se pose, bon, c'est celle, là, quel que soit le sujet, l'opportunité d'organiser une manifestation à Paris en ce moment. Parce qu'on voit bien qu'il y a une démobilisation extraordinaire des Français autour du... Quel que soit le débat, les gens disent, bon, on prend l'impression qu'ils disent, bon, on s'en fout. Moi, je m'attendais, par exemple, à ce que la décision d'appliquer la nouvelle loi électorale, nouvelles dispositions électorales provoquent un véritable tremblement de terre. Enfin, c'est du vol manifeste de suffrage. Pas du tout, les gens ont accepté ça tranquillement. On leur a collé le 49-3, ils trouvent ça, bon, finalement, c'est très bien, c'est normal. Donc, c'est une formidable démobilisation de l'électorat. La seule chose qui a fait un petit peu bouger, et encore la France, et de tous les pays européens, celui où il y a eu le moins de manifestations, c'est la manifestation contre la guerre bouchiste en Irak. Là, on comprend peut-être pourquoi, c'est parce qu'effectivement, comme le pouvoir politique est hostile à cette guerre, tout parti confondu, sauf Madelin, mais enfin Madelin, qu'est-ce qu'il représente à part Madelin? Donc, à part ça, tout le monde est d'accord, donc on voit pas bien pourquoi les gens manifesteraient pour témoigner leur accord avec le système. Mais enfin, quand même, on sent qu'il y a une démobilisation. Alors, organiser une manif en ce moment à Paris, surtout pour un sujet qui nous est quand même assez étranger, au fond, parce que le Zimbabwe n'a pas de lien avec la France.
Oui, mais moi, je pense que l'important, c'est de témoigner. Je pense que nous sommes, évidemment, dans une ère de néo-totalitarisme que j'ai décrit dans la griffe. Ce néo-totalitarisme, nous l'avons vu fonctionner dans une logique qui est celle du meilleur des mondes de Orwell, ou celle du 1984, pardon, de George Orwell et du meilleur des mondes d'Huxley. Nous avons vu ce que Yves Daoudal, dans son très beau livre, a appelé le tour infernal, et je crois que le peuple français est un peuple de chaos. Les gens qui manifestent habituellement, ce sont les apparatchiks syndicaux, ils sont des dizaines de milliers dans le pays. Alors pour eux, rester au bureau ou dans la permanence syndicale ou manifester, ça ne les change pas beaucoup. Au contraire, ça leur permet des petites promenades hygiéniques. Mais de notre côté, il est vrai qu'il y a une grande démobilisation parce que, en quelque sorte, la résistance nationale, enfin, ceux qui n'admettaient pas, au fond, ce que j'ai appelé pour ma part, dès 1976, le génocide français, ils ont été KO debout après le second tour des présidentielles. Le premier tour a été quelque chose de stupéfiant. Le second a vu la sarabande infernale. Et ensuite, évidemment, peu de réveil. Alors, le mode électoral, ils s'en moquent globalement parce qu'ils se disent de toute façon, à quoi bon, puisqu'on ne peut pas avoir de député, on ne peut pas avoir de président de la République, ça, c'est bien évident. Donc, un changement de scrutin électoral, ça n'allait tout de même pas les mobiliser. Mais, je pense, moi, la thèse du charbon de bois, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut continuer de souffler sur les braises qui existent, et je suis sûr qu'il y a un certain nombre de gens à Paris qui m'entendent, dans la région parisienne, qui savent bien que cette politique constante de Jacques Chirac d'ouverture aux pires dictateurs est quelque chose d'intolérable, et que celui-ci qui ne cesse d'invoquer la morale, la piétine en fait allègrement. Deuxièmement, il y a des gens nombreux qui ne confondent pas une politique stupidement cosmopolite et mondialiste avec la conception que nous avons de la France, qui a effectivement un rôle à jouer en Afrique. Parce que où nous acceptons de devenir définitivement un petit pays d'Europe, une région d'Europe, ou bien nous avons encore la fierté de notre nation, nous pensons qu'elle a encore un rôle à jouer, et c'est ce que nous croyons, et à ce moment-là, ce qui se passe au Zimbabwe, ou ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ne peut pas être indifférent. Et puis cela prend place dans ce que je veux, ce que j'ai toujours demandé pour ma part, que le bilan du communisme soit fait un jour, et de ce côté-là, on a quand même avancé.
Je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui est en cause là, c'est pas tellement ce qui se passe au Zimbabwe, c'est ce qui se passe en France, parce que c'est en France que Mugabe est reçu.
Mais bien
donc,
sûr.
C'est quelque chose qui concerne vraiment.
Donc nous n'avons pas l'orgueil de penser qu'on peut faire quoi que ce soit pour la situation intérieure du Zimbabwe. Bon, mais nous voulons dire, nous voulons mettre en avant dans les contradictions de Jacques Chirac. Et même si effectivement nous approuvons ce qu'il a fait pour éviter la guerre en Irak, nous souhaitons qu'il continue d'ailleurs dans cette attitude, eh bien nous sommes en désaccord total avec lui sur sa politique africaine.
Donc cette manifestation, c'est demain jeudi 20 février à 19h sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro.
Voilà.
Avant que le débat ne soit clos, Serge, si vous permettez, Bernard Anthony, une petite tentative quand même pour vous déstabiliser, pour animer un peu l'émission.
Enfin.
L'avocat du diable n'est pas là. Je veux parler de Bernard Lugan, mais je peux peut-être être l'avocat de l'avocat du diable. Vous connaissez l'un et l'autre, Serge de Beketch, Bernard Anthony, les positions de Bernard Lugan. Serge, d'autant mieux que vous venez de l'interviewer longuement au sujet de la Côte d'Ivoire dans le numéro qui vient de paraître du Libre Journal. Et vous l'entendez, vous le connaissez, vous l'entendez sur Radio Courtoisie, et vous l'avez entendu comme moi expliquer que il faut renoncer au point de vue européocentriste, si vous pardonnez le jargon que vous venez de développer, et adopter ou au moins essayer de comprendre le point de vue africain et comprendre que Mugabe, de son point de vue d'Africain, est prêt, est complètement indifférent au coût humain que peut imposer la réafricanisation, et donc il est déterminé à chasser les fermiers blancs, à chasser les blancs définitivement, et Lugan dit brutalement, mais c'est quand même le meilleur africaniste français, sinon le seul, à preuve les résultats des autres en Côte d'Ivoire, il dit très nettement qu'il faut accepter ou comprendre ce point de vue,
oui,
et qu'il peut-être nous inspirer.
Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout déstabilisé, mais ce qui me gêne, c'est que ce ne soit pas Bernard Lugan qui soit en face de moi, parce qu'il ne serait pas élégant de m'en prendre à l'avocat et pas à la personne lui-même. Mais il se trouve que j'ai une grande amitié pour Bernard Lugan, je sais qu'il est un universitaire, je le lis, je l'entends peu souvent parce que Radio Courtoisie ne parvient pas juste à ma lointaine campagne, mais je peux pas dire que je suis en désaccord avec cela, c'est une position esthétique en quelque sorte, une position d'amoureux des sud de l'Afrique, parce que s'il fallait être absolument européocentriste, qu'aurait fait Bernard Lugan à ce moment-là? C'est toute sa carrière qui était brisée. Il aurait dû nous parler des monts du Lyonnais, il aurait dû passer sa vie à nous parler des traditions auvergnates. Je vois pas pourquoi il continue à nous parler de l'Afrique, puisqu'il n'y aurait plus rien à faire en Afrique.
Bon, ben on va essayer d'organiser un débat avec Lugan.
Offrez-moi un face-à-face. Je t'oserai à Bernard Lugan de ses illusions sur l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup séjourné, mais je n'avais pas besoin d'y séjourner pour savoir que peut-être il se trompait. Et lorsque je suis arrivé à l'Afrique du Sud, j'ai bien vu comment il était évidemment totalement illusoire, infantile, de penser qu'il y aurait un jour une tentative de contre-révolution blanche en Afrique du Sud, à Londres. Il suffisait de survoler Johannesburg comme je l'ai fait, et ce pays comme je l'ai fait, pour comprendre que c'était irrémédiablement voué à l'échec. Bon, ensuite, Bernard Lugan a cru à la contre-révolution Zoulou. J'ai bien la mémoire, je le lis, car ce qu'il dit est toujours dit élégamment, intelligemment, mais avec des erreurs que j'annonçais, et des erreurs que je pensais tragiques. Alors pour autant, ce que je sais, c'est que nous avons, nous, une France qui est en liaison permanente avec l'Afrique. On veut couper toi, on veut faire un rideau de fer entre l'Afrique et nous, allons donc. Donc nous avons certainement encore une politique africaine à jouer, à condition que ce soit une bonne politique.
Alors, il y a un auditeur qui pose une question qui est brutale et provocatrice, mais elle est intéressante, d'abord parce qu'elle est intéressante en soi, mais en plus elle permet de faire le lien avec un autre aspect de vos activités, Bernard Anthony, c'est la dénonciation constante et répétée du danger islamiste, les conférences que vous prononcez sur le défi, ce que vous appelez le défi islamique. Alors cet auditeur nous dit, faisant allusion à ce que vous venez de dire à propos de la Côte d'Ivoire, il dit: Bernard Anthony se plaint de l'avancée des islamistes en Afrique, alors qu'il a soutenu les islamistes en Bosnie et au Kosovo. Peut-il expliquer ça?
Écoutez, très volontiers. Je rappelle à cet auditeur que notre position a été tout simplement d'observer que, premièrement, il y avait sécession de la Fédération yougoslave par rapport à la domination communiste qui était évidemment concrètement visible avec les 2500 chars d'assaut étoiles rouges, avec l'oppression d'un régime titiste qui ne tenait pas au-delà de la personnalité de Tito. Et donc, je me souviens d'avoir reçu... Je vais raconter une anecdote à cet auditeur et ça suffira. J'étais membre de la commission des affaires étrangères du Parlement européen au début de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. J'ai reçu toutes les parties en présence, puis je suis allé à Zagreb, je suis passé en Bosnie. Mais j'ai reçu en tout cas la délégation des chefs serbes qui étaient à l'époque d'ardents communistes, partisans de Milosevic. Je leur ai dit, messieurs, je vous écoute bien, vous professez que la Croatie, vieille nation européenne constituée depuis 11 siècles, devrait être limitée à la portion de territoire, j'emploie les expressions chères donc au leader serbe ultranationaliste Jirinovski et d'autres. Excusez-moi, je pensais aux Russes, c'est Saïl. Mais c'est un tout petit peu de la même graine. C'est Saïl. Que la portion de Croatie qui doit être dévolue à ce qui resterait de peuple croate, c'est ce que l'on voit, c'est l'étendue de territoire que l'on voit depuis la cathédrale de Zagreb. Je leur dis, messieurs, feriez peut-être bien de vous intéresser à d'autres dangers qui me paraissent plus importants pour votre peuple. C'est le danger de l'islam qui peut avancer. Qui peut avancer dans votre Kosovo, au berceau même de votre nation historique, et au Sandjak. On appelle le Sandjak une entité, vous le savez, de l'Empire ottoman, mais là, ça a désigné un nom spécifique à l'intérieur de la nation serbe. Ces gens-là, avec courtoisie, mais enfin, m'ont un tout petit peu rayonné. Ils m'ont dit, nous allons faire la guerre. Je leur ai dit, messieurs, moi, je vous demande de considérer une chose. C'est une guerre, on sait comment elle commence, on ne sait jamais comment elle finit. Et je crois que ces gens-là ont fait le malheur de leur peuple. Parce que la Croatie était parfaitement en droit, comme la Slovénie, de reprendre une liberté que lui concédait théoriquement d'ailleurs la constitution yougoslave. Par contre, évidemment, au Kosovo, ils auraient mieux fait de faire attention. Parce que quand on ne fait plus de bébés serbes, à ce moment-là, effectivement, l'islam avance. Pour ce qui est de la Bosnie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tout de même, là, ça mériterait quelques bémols, et on ne peut pas dire que même aujourd'hui, l'islam avance si facilement en Bosnie. Je rappelle qu'il y a des Serbes en Bosnie, qu'il y a des Croates en Bosnie, et que donc la Bosnie a été peuplée majoritairement de Serbes et de Bosniaques, et que ceux qui portent la nationalité musulmane sont pour l'instant toujours très réticents à l'avancée islamiste, qui n'ont pas changé de mœurs et qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'islam bosniaque, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, car il y a de l'islamisme en Bosnie, mais il est très minoritaire. Et voyez-vous, j'ai à propos de l'Irak exactement la position que j'avais par rapport à la Bosnie. Ce que je ne souhaiterais, ce que je ne souhaite pas, c'est des politiques stupides légitiment le développement de l'islamisme.
Alors on va revenir à l'Irak tout de suite, mais je voudrais faire revenir en arrière pour l'instant, parce que à propos de la manifestation que vous organisez demain à 19h au Trocadéro, un auditeur nous dit qui organise cette manifestation? Est-ce que c'est le Front National? Est-ce que c'est...
Non, c'est Chrétienté Solidarité et les groupes qui sont proches, bien sûr. Je ne mets pas mes casquettes à la poche, mais Chrétienté Solidarité a une originalité constante depuis sa création. Je voudrais rappeler Serge de Bekech, car vous en étiez, que dès 1979, la sortie du désert du mouvement national en France avait été manifestée par une réunion comme il n'y en avait pas eu depuis des années et des années. C'était la réunion du comité international pour le boycott des Jeux Olympiques à Moscou que j'avais organisé, et Jean-Marie Le Pen d'ailleurs avait été le dernier orateur de la soirée. Il y en avait plus de 20 avec Michel de Saint-Pierre, beaucoup d'autres, vous en étiez. Et donc je rappelle que le but de Chrétienté Solidarité, qui n'est pas comme persistent à le croire des journalistes, admettons, ou des informateurs, Chrétienté Solidarité, ce n'est pas une organisation religieuse, ça ne l'a jamais été. C'est une organisation militante qui s'est fixée notamment l'aide au peuple en lutte contre le communisme. Tant que communisme il y avait, mais il y a toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, et même le virus est mutant, aussi lutte contre en faveur des peuples en lutte contre l'impérialisme islamique ou l'islamisme, comme on dit aujourd'hui.
Cette question d'auditeur s'explique parce que nous avons omis de rappeler que Bernard Anthony est membre du bureau politique du Front National. Bien sûr. Certains auditeurs ne le savaient peut-être pas.
Il
s'en cache pas.
Heureusement.
Écoutez Radio Courtoisie.
Mais c'est comme un coucou suisse.
Disons que Chrétienté Solidarité a toujours eu, en quelque sorte, l'originalité d'un certain nombre de combats très complémentaires. Ça a été notamment la journée du procès Boudarel. Nous sommes tenaces. Et puis surtout, là je parle en tant que membre du bureau politique du Front National, je suis de ceux qui pensent encore, ou qui voudraient que le Front National ne soit pas un parti. C'est un mot que nous n'aimions pas, jadis au moins. Beaucoup emploient ce mot, moi jamais. Je ne suis pas un totalitaire. Je n'ai pas du Front National la conception qui devrait être une sorte de parti communiste à l'envers. Et c'est dire qu'à côté, je tiens jalousement à l'avis des associations que je préside. Et j'estime d'ailleurs qu'il est bon qu'il y en ait d'autres, mais pour ce qui est des miennes, elles ont en quelque sorte une légitimité, hélas, j'allais dire aujourd'hui, de plus d'un quart de siècle, mais sur ce plan-là, tous mes amis du Front National comprennent, et d'ailleurs je sais que demain ils vont venir nombreux à cette manifestation, évidemment.
Je ne vais pas passer pour un provocateur, mais il faut quand même qu'on en touche un mot, puisque vous venez de préciser que Chrétienté Solidarité n'est pas une organisation confessionnelle au sein du Front National, que c'est une organisation militante, qui est quand même constituée
de
catholiques.
Serge de Bekech, de militants politiques qui placent leur action, évidemment, sous l'éclairage de la foi et de la morale chrétienne. Voilà, parce qu'on ne vous voit pas autrement une morale stable. Je dis de catholiques, oui, mais avec une tendresse aussi, parce qu'il y en a des chrétiens. Nous n'avons jamais rejeté, en parfaite doctrine catholique, et même en parfaite doctrine de Saint Pie X, dans les hommes de bonne volonté qui sont avec nous, tels que Michel Grigorovitch Barski, fidèlement orthodoxe, ce je comprends tout à fait, ou un certain nombre de nos amis protestants qui, dans le domaine donc du combat politique, sont totalement avec nous.
Et cela dit, ça pose quand même, ça oblige à répondre, à vous demander de répondre à la question qui est soulevée par Chénardy dans le Monde, qui dit les catholiques représentent 2% du Front National. C'est une évaluation qui vous paraît sérieuse, fantaisiste, pas pour polémiquer, est-ce que vous, ça correspond à ce que vous voyez?
Oui, écoutez, il y a des propos qu'on ne prend pas la peine de réfuter, tellement ils sont stupides. Je n'ai jamais fait le compte, parce que je ne suis pas un chef de tendance. Le programme du Front National me convient tout à fait, et je ne recense pas qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs un traditionaliste. Il faudrait voir, parce que nous savons bien ce que ça veut dire. Tiens, précisons-le tout de même. Un traditionnaliste dans l'ordre religieux, c'est évidemment celui qui ne veut pas de discontinuité entre les origines et l'actualité, mais qui sait que la religion va de l'implicite à l'explicite. Il y a donc une évolution une adaptation aussi de la religion, donc qui à chaque époque, comme au XIXe siècle par exemple, a vu l'action magnifique des catholiques sociaux qui n'avait pas surgi avant, parce qu'il n'y en avait pas besoin. À chaque étape de la vie de l'Église, il y a nécessité de mener des combats nouveaux et des combats intellectuels, des combats spirituels. C'est pour ça que les ordres religieux apparaissent. Enfin, voilà. Donc il y aurait tout un sens de la tradition qui n'a rien à voir avec le fixisme, avec le conservatisme stupide. Donc c'est la grandeur de l'Église catholique qui, humainement, a ses faiblesses, voire ses tares, que sais-je encore. Mais donc l'Église avec un grand E, c'est effectivement la tradition. Dans l'ordre politique, la tradition, c'est l'attitude scientifique. C'est l'art de dégager du passé Ce qui a réussi, c'est de connaître les lois. Et d'un certain côté, nous rejoignons là le courant positiviste d'Auguste Comte. C'est Charles Maurras. La tradition est critique.
Oui, c'est
et donc, j'espère bien qu'en dehors d'analphabètes ou de gens qui n'ont pas beaucoup travaillé, il y a 100% de traditionnalistes au Front National. Hein, parce qu'autrement, ça serait tragique. Et alors, j'ai lu aussi qu'il ne faudrait pas que le Front National devienne un parti religieux. Bah, heureusement, j'ai pour ma part toujours été hostile à l'idée d'un parti religieux, car ça serait la confusion qui n'est pas catholique. Le catholicisme est fondé sur un certain nombre de paroles qui s'appellent l'Évangile, et notamment « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César ». Ce qui ne veut pas dire que César doive vouloir occulter Dieu. Alors on sait qu'il y a eu les querelles des papes et de l'empereur. Souvent le pape voulait se faire un peu trop empereur et l'empereur voulait se faire pape. Dieu merci, aujourd'hui on n'a plus ce genre de débat. C'est plutôt le contraire. Je ne suis donc pas pour ma part pour un parti religieux, ça serait absurde, ça serait la confusion en quelque sorte. Mais je suis pour l'éclairage, encore une fois, de la politique par effectivement une morale immuable qui est celle du décalogue, à laquelle s'est toujours référé dans 1510 discours Jean-Marie Le Pen. Je ne pense pas qu'il change, ça serait autrement quelque chose de parfaitement inquiétant, et je ne suis pas inquiet. Jean-Marie Le Pen a voulu faire, je le dis, pour cet homme qui a écrit cela dans Le Monde, ça mériterait d'être vérifié. Enfin, je crois que c'est entre guillemets, donc pourquoi pas. Et donc, je rappelle que quand même, le Front National, c'est le défilé de Jeanne d'Arc chaque année, qui est quand même l'hommage d'une héroïne de la patrie, mais qui quand même est une sainte aussi, et qui a marqué l'identité chrétienne de la France d'une manière considérable. Donc, la position que je défends, et que défendent à mon avis tous les gens qui réfléchissent un peu sur le combat politique, c'était effectivement la distinction, mais non pas la séparation, et surtout le fait que nous luttons pour un pays magnifique qui a été créé autour de ses valeurs chrétiennes, de ses monastères, de ses cathédrales. Où aime-t-on déambuler dans Paris? Est-ce dans l'enfer des tours de la Défense, ou autour de Notre-Dame de Paris, et autres lieux donc aussi prestigieux?
Et une parenthèse, vous allez participer d'une manière ou d'une autre avec Chrétien et Solidarité à l'initiative qui a été, non pas prise, mais au moins annoncée abondamment par Jean Madirande en présent, de l'année Saint-Pie-X.
Mais oui, bien sûr. Là, c'est une initiative tout à fait intéressante dans l'ordre culturel qui est celui du Centre Charlier, là, puisque, il faut le dire aussi, je préside
le Centre Charlier,
qui travaille beaucoup avec, je dois dire, tout un nouvel arrivage de jeunes étudiants, notamment de l'École Polytechnique, de l'École Supérieure de Physique Chimie, la Ville de Paris, de la Sorbonne. Alors là, bien sûr, tout cela nous intéresse, mais là, nous sommes dans l'ordre intellectuel, culturel, et je crois que c'est une bonne idée, parce que Pie-X, c'est un grand pape, et c'est un pape très moderne, ce que j'espère, ce qui sera démontré au long de cette année.
Alors, pour en revenir à une actualité immédiate, qui ne nous éloigne pas tellement de la question du rapport avec l'islam, c'est l'affaire irakienne. Alors, pour simplifier le débat, je vous poserai la question de manière un peu brutale, est-ce que vous êtes bushman ou saddamite?
Oui, très bien, là c'est bon, on s'embête pas. Ben, ni l'un ni l'autre. Et là aussi, pour l'auditeur qui me parlait tout à l'heure de la Bosnie, il faut savoir raison garder. Alors, très rapidement, comment dire? Je suis allé en Irak. J'y suis allé grâce à l'épouse de Jean-Marie Le Pen, Jeannie, qui conduit une action tout à fait admirable. SOS Enfants d'Irak, que Chrétienté Solidarité a totalement appuyé. Ça m'a permis de connaître un peu ce pays, mais je connaissais déjà un peu le monde musulman. Je le dis tout de suite, je n'ai aucune admiration pour le régime de Saddam Hussein, mais qui n'est pas un régime pire que celui d'Hafez al-Assad ou de son rejeton Bachar en Syrie.
Ou de Mugabe.
Oui, alors non, là, tout de même, nous ne sommes pas dans ce niveau-là. Mais je rappelle que pour ce qui est de la France, qui nous intéresse essentiellement, l'Irak n'est pas un pays ennemi, ni même un pays hostile. Nous avions là nos intérêts. Je voudrais rappeler que dans cet univers islamique, les partis Baas ont constitué, après le kémalisme, qui relève d'ailleurs d'une autre idéologie, ont constitué des tentatives de partis socialistes laïcs qui étaient assez sympathiques pour les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, jusque-là réduits au statut de dhimmi, Le DIMI, je le rappelle, c'est le citoyen de seconde zone qui est soumis au fond à la bonne volonté du calife quant à sa survie, mais je résume très vite. La tentative des partis basses, qui n'était pas anti-musulman, il n'aurait pas pu se le permettre. C'était une tentative de laïcisation, pas du tout, comme on l'entend chez nous, avec le petit père Combes ou la haine anti-religieuse. Tentative de pure distinction du religieux et du politique. Mais c'était pas mal, au moins pour ces chrétiens d'Orient, qui ont subi des génocides, là aussi, sur lesquels on pourrait causer beaucoup, le génocide arménien, mais celui beaucoup moins connu des Assyro-Chaldéens. Bon, alors...
Je peux dire, j'en ai parlé plusieurs fois, il faut absolument lire un livre qui est paru il y a très peu de temps, de William Dalrymple, D-A-R-L-Y-M-P-L-E, qui s'appelle sur les traces de Byzance, ou quelque chose comme ça, et où il raconte un voyage qu'il a fait depuis le mont Athos jusqu'au monastère copte de l'Égypte, et où il traverse tous les pays du Moyen-Orient, et où donc à chaque fois il expose la situation des chrétiens, et notamment alors sur la Turquie et sur la situation des chrétiens arméniens. Il y a des pages déchirantes, absolument déchirantes, où il raconte et il fait parler les témoins, qui sont généralement des vieillards brisés par le malheur et par l'âge, et qui se souviennent du temps où ils avaient des familles entières avec beaucoup d'enfants, etc. Et il reste 3 personnes dans le village qui sont placées sous la protection du maire turc du village, qui veut bien les tolérer. On voit la réalité charnelle, la réalité terrifiante de ce génocide qui lui a été totalement réussi.
Alors là, il n'y a plus un Arménien. Il faut le dire, il faut donc le rappeler ceci tout de même, c'est qu'en Irak, les chrétiens disposent de grandes libertés, qu'effectivement, le pays auquel nous aurions légitimité de nous en prendre, c'est la Syrie. C'est la Syrie qui, par l'intermédiaire du Hezbollah, fait sauter à Beyrouth l'hôtel du Drakkar avec 55 de nos parachutistes. C'est la Syrie qui fait assassiner l'ambassadeur de la Mar. Mmh. C'est la Syrie qui fait assassiner mon ami le colonel Gouthière, attaché militaire à l'ambassade de France. J'ai encore le souvenir de cette entrevue avec le colonel qui me dit à Beyrouth, méfiez-vous, vous êtes un peu imprudent. Je lui dis, écoutez, mon colonel, j'ai l'impression que vous l'êtes tout autant. Vous voyez, je suis là, et le colonel a été assassiné. Alors, moi, je n'ai pas oublié les Français assassinés par la Syrie. Or, M. Bachar al-Assad et M. Jacques Chirac, entretiennent des rapports tout à fait fructueux. Le président du Liban, je rappelle, non pas le président de la République fantoche, mais M. Hariri.
Trafic
Hariri. Et de nationalité saoudienne, d'ailleurs. Il faut le savoir. Hein, pour les besoins de la cause, on a accepté qu'il se fasse libanais. Alors, l'Irak ne nous a jamais rien fait, si je puis dire en termes un peu enfantins. Mais cet Irak, ce n'est pas donc une dictature pire que celle de la Syrie, mais ce n'est pas un régime exemplaire, bien évidemment. Pour autant, ce que nous considérons comme tout le monde, c'est ce malheureux peuple qui n'est pas un peuple qui fournit des bataillons d'immigrés qui envahissent notre sol. L'Irak est un pays avec des classes intellectuelles très développées. C'est un pays dans lequel nous avions toute raison de maintenir notre présence. Et sur ce plan-là, espérons qu'il tiendra ferme, nous ne pouvons qu'appuyer Jacques Chirac.
Il y a un aspect, j'ai déjà souligné ce côté surprenant à propos de l'Irak, c'est de la semaine dernière, et je regardais hier soir la télévision française juive sur le câble, TFJ, et j'ai vu une émission où l'animateur, dont le nom m'échappe, avait invité deux personnalités, deux géopoliticiens, c'est comme ça qu'on dit, de qualité, puisqu'il s'agissait de, comment ça s'appelle, d'Alval, et de Antoine Colonna, qui a une émission sur Radio Courtoisie, qui expliquait toutes les bonnes raisons qu'il y avait d'écrabouiller l'Irak une fois pour toutes. C'est à la mode en ce moment. J'ai entendu ce matin dans l'émission de Garello, mon excellent camarade Guillaume, qui, après avoir expliqué que, à propos des Indiens, que c'était pas les Américains qui avaient tué les Indiens, mais c'était les Blancs, qui est une différence que je vous laisse apprécier, a expliqué qu'il fallait d'urgence écrabouiller les Irakiens sous les bombes, et que tout simplement parce qu'ils étaient là et qu'on voulait prendre leur truc, voilà. Bon. Donc, J'entendais Antoine Colonna expliquer qu'il fallait d'urgence tabasser l'Irak. Et Delval a eu la même réflexion que moi. Pourtant, vraiment, on n'a pas beaucoup de points en commun. Mais c'était assez curieux dans sa bouche. Il a dit, il y a quand même quelque chose qui est étrange, quelque chose qui est dangereux. C'est que M. Saddam Hussein a fait distribuer des armes au peuple irakien. Et j'avais fait cette remarque, effectivement, la semaine dernière. Je trouve assez difficile d'admettre qu'un dictateur dont on nous dit qu'il est honni par son peuple, qui est pétrifié de terreur, seule raison pour laquelle il lui obéit, se met à faire distribuer des armes de poing dans toutes les familles pour résister à un éventuel envahisseur. Apparemment, Saddam Hussein doit être un parfait crétin, parce qu'il n'a pas pensé une seule seconde que les armes qu'il distribue pouvaient être tournées contre lui.
Moi, je pense que M. Delvalle est bon connaisseur, bon analyste. Je ne partage pas toujours ses positions. J'en partage beaucoup sur l'islam. Ce que je voudrais rappeler, c'est que l'Irak, effectivement, est morcelé essentiellement en quatre communautés. Comme partout en Orient, peuple et rite religieux ou religion se confondent.
Bah, allons vers l'Orient compliqué avec des idées simples, disait-il.
Vers l'Orient compliqué avec des idées simples, et ça n'est pas plus compliqué que la politique radicale socialiste à Toulouse, vous savez. Alors donc, au sud, il y a des chiites, au nord, il y a des Kurdes. Je voudrais dire que les Kurdes, je ne confonds pas les Kurdes avec donc, les auteurs des massacres, mais tout de même, les massacres principaux des Arméniens et des Assyro-Chaldéens sont le fait de ces Kurdes si chers à Daniel Mitterrand.
Qui sont donc, des Azéris d'ailleurs, beaucoup.
Oui, c'est ça. Donc là, je voudrais dire que ensuite il y a le corps sunnite de l'Irak qui est minoritaire, mais il va de soi qu'une dictature comme celle de Saddam Hussein s'appuie sur une profonde acceptation populaire, et en ce moment même. Bon, ça c'est ne rien connaître à la mentalité islamique que de croire que l'agression américaine pourrait favoriser un éclatement. Parce que ça, c'est une constante de la politique analysée depuis Lawrence d'Arabie et beaucoup d'autres. Les musulmans, donc, se font souvent la guerre entre eux pour des raisons tribales ou des raisons de rite ou autre, mais s'unissent toujours à partir du moment qu'il y a un adversaire non musulman. Ce que on est donc en train de faire, c'est aujourd'hui de coaliser effectivement, c'est ma certitude, la majorité du peuple irakien autour de Saddam Hussein. Bon, mais ensuite, si on déstabilise Saddam Hussein, si on le tue, si le régime s'effondre, que va-t-il se passer? C'est l'éclatement général. Et en tout cas, c'est un encouragement à l'islamisme. Vous voyez, je raisonne exactement dans l'affaire irakienne comme j'ai raisonné dans l'affaire bosniaque. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens de droite que nous sommes des crétins extrémistes qui croyons qu'il faut tout régler par le fer et par le feu. Parce que
d'ailleurs, vous rejoignez M. de Villepin à l'ONU, si je ne me trompe pas, il a expliqué à peu près la même chose. Et est-ce que ce ne serait pas du bon sens, tout simplement?
Mais c'est tout simplement du bon sens. Bon, être un va-t-en-guerre, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Non, c'est toujours stupide. Hein, il faut avoir de la force pour faire une politique. Mais le écrabouiller, c'est très exactement ce que veulent faire les Israéliens aujourd'hui avec les Palestiniens. Ils n'y arriveront pas parce qu'ils en écrabouilleront beaucoup. Ils vont en tuer 10, 15 par jour, etc. Mais autour d'eux, c'est une marée humaine. Les choses se règlent par une politique qu'appuie une force. C'est ça le bon sens. C'est ce qui fait que nous devrions méditer cela en Afrique, où nous n'avons même plus, hélas, les forces qui pourraient nous permettre de pratiquer une politique.
Là, je vous propose...
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Coucou. Je vais vous proposer des...
Et pour ceux qui n'ont pas la... Moi aussi, je vais vous interrompre, Serge. Pour ceux qui n'ont pas la radio en couleur... Monsieur Anthony en a pris des belles couleurs depuis un moment. Il est devenu, vous avez remarqué, son visage s'est enflammé depuis une demi-heure. Ouais. Et je m'en réjouis parce que, bon, on n'a pas réussi à le déstabiliser, mais du moins, on l'a assez secoué pour en tirer le maximum.
Ah, ça, c'est gentil, Patrick.
Donner la parole un petit peu aux auditeurs, là.
Oui, on va le faire, mais j'ai prévu de poser des questions. Comme les auditeurs posent beaucoup de questions, je vous laisse les rassembler. Et oui, pas tellement, d'ailleurs, au fond.
Beaucoup, hein,
donc, ceux qui sont d'accord sur l'essentiel. Oui, on a l'habitude de dire qu'ils posent beaucoup de questions, mais là ce soir c'est plutôt calme.
Ils sont d'accord, alors ils le disent.
Voilà, ouais. C'est ça. Donc ils disent bravo. Merci beaucoup. Oui, je voudrais vous parler de la nécessité d'appuyer la politique sur une force morale, force matérielle. matériel aussi. Et vous dites qu'il faudrait qu'on fasse ça en Afrique, mais moi je trouve que ça serait pas mal de le faire en France aussi. Parce que,
oui, bien sûr, nous y venons.
Je sais bien qu'on est d'accord. Mais il y a deux affaires justement, qui réunissent à la fois cette question de la force de l'autorité publique et du problème, on va pas faire semblant de dire islamique parce que ça n'a rien à voir, du problème de l'immigration. Il y a l'affaire de la petite Sarah. Et puis l'affaire Thierry Ferrer. Alors, la petite Sarah, c'est une jeune fille qui a été victime de tournantes. Elle a eu le courage de dénoncer les voyous qui l'ont... les tortionnaires, la crapule, la racaille qui l'a violée en bande. Et depuis, elle est... elle fait l'objet, et avec sa famille, de menaces, de représailles, au point que il y a quelque temps le proviseur du lycée dans lequel elle est, ou du collège, je ne sais plus dans lequel elle est, a été obligé d'aller la chercher lui-même à son domicile pour l'amener au collège le matin sous sa protection, de la reconduire le soir. Et là, ses parents, ne pouvant pas déménager pour des questions financières, finalement, on apprend que cet enfant, cette jeune fille, je sais pas comment on peut dire, quoi, jeune fille, oui.
De Roubaix, c'est ça. Est placée en foyer sécurité.
On l'a placée pour sa sécurité dans un foyer où on la cache. C'est-à-dire, on sait pas où elle est. Tout ça parce qu'une bande de racailleux d'occupants a décidé de la torturer après l'avoir violée, de la torturer parce qu'elle les a dénoncés.
Vous voyez,
donc là, on est en face d'un pouvoir qui est totalement impuissant à assurer le minimum de l'ordre public, ce qui n'empêche pas de toucher.
C'est là que, Serge, je ne mâcherai pas mes mots. Vous voyez, j'avais prévu de parler, puisque parmi les coupures de journaux que j'ai amenées pour commenter ce soir, il y avait cet article du Figaro sur la victime de tournante placée en foyer. Ce qui veut dire que la politique de M. Sarkozy, la politique de l'État français, est incapable de protéger une pauvre gamine, une famille. Alors les grands mots de solidarité, de sécurité, mais devant cela, c'est scandaleux. Je pense à cette gosse, et si nous étions un peuple digne de ce nom, nous serions des centaines de milliers autour de cette famille et à exiger donc la peine de mort pour des gens capables donc comme ça de torturer des enfants, de même qu'on en enlève aujourd'hui, et que c'est de se déposséder de toute humanité que de ne pas vouloir faire justice en pareil cas. Enfin, que l'État français ne soit pas capable d'assurer la paix à cette gosse, de trouver donc pour ses parents un havre de paix, cela met à néant tous les discours qu'ils peuvent tenir.
Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que je dis que la politique sécuritaire de Sarkozy, c'est du pipeau, c'est du bidon, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a aucune politique sécuritaire. Il y a des coups publicitaires où il va faire le malin dans les commissariats et où il ose engueuler les flics, alors que les flics ne font qu'appliquer à leur corps défendant la politique qu'on leur a demandé d'appliquer, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la politique de prévention, qui consiste tout simplement à copiner avec la racaille. Et quand ils le font, on voit Sarkozy descendre à Toulouse, c'est Toulouse, c'est ça, ou à Béziers, pour engueuler les flics qui ont fait ça.
Chez moi.
Et alors, on a cette histoire de la petite Sarah, et en face, on a une histoire qui est l'inverse, je dirais, ou qui est la démonstration. Alors que quand l'État, quand cet État pourri, cet État mafieux, est en face d'un faible, ou de quelqu'un dont on sait qu'il ne réagira pas, alors là, il devient absolument implacable. C'est l'affaire Thierry Ferrer
à la scène.
En deux mots, Thierry Ferrer, il y a un an, là, en ce moment, donc à la fin février 2002, découvre sa petite fille...
À Toulon, ça, cette fois.
À la Seine.
À la Seine.
Sa petite fille prostrée, elle a été violée par un arabe, par un Algérien. Le père, foudrage, attrape un fusil, retrouve l'Algérien, le coupe en deux d'un coup de fusil. Il est arrêté. Il se trouve que, premièrement, il a agi sous le coup de la colère, dans l'emportement. Deuxièmement, sa fille a été violée. Troisièmement, quelque temps avant, un de ses neveux ou une de ses nièces a été également l'objet de menées de la part d'un pédomane, et que la justice a correctionnalisé l'affaire. C'est-à-dire, le type va s'en tirer avec une amende et une réprimande. Et dans la famille de Ferrer, on est ivre de rage à la suite de cette affaire qu'on considère comme une affaire de classe. C'est-à-dire, la famille Ferrer dit, nous, c'est parce qu'on est des pauvres gens, on peut nous faire n'importe quoi, on est des pauvres gens et on s'en tire avec une amende. Donc Ferrer pique un bœuf et il coupe en deux cet arabe avec d'un coup de fusil. Entendons-nous, c'est très mal. On ne doit pas faire justice lui-même. Voyant quoi, il est mis en prison. Mobilisation pour le faire libérer. La mobilisation va durer quelques jours et elle va être déstabilisée, cassée par le juge d'instruction qui instruit uniquement à charge contre Ferrer, en essayant de démontrer, premièrement, que la famille ne présentait pas les garanties suffisantes pour la petite fille, deuxièmement, que la fillette, en réalité, était depuis longtemps la maîtresse, c'est monstrueux, hein, on croit rêver, de l'arabe que
elle avait 13
Ferrer,
ans.
Elle avait 13 ans, qu'elle était sa maîtresse, et qu'elle avait raconté ça à son père, parce que l'arabe l'avait plaqué, ce qui est absolument faux. J'ai eu une conversation avec l'avocat, qui m'a dit, il n'y a rien à faire, cette histoire ne tient pas une seule seconde. Toutes les expertises ont démontré que la gosse a été violée, qu'elle est victime d'un grave traumatisme sexuel dont elle ne se remet pas. Le bilan, c'est que depuis un an, Thierry Ferrer est en prison, alors qu'il présente toutes les garanties de représentation. Il a naturellement plus d'argent. Sa femme, qui est devenue folle, survit grâce à la charité des camarades pêcheurs de Thierry Ferrer. Sa fille est en foyer, elle a commis 3 tentatives de suicide. Voilà. Alors, d'un côté, vous avez des salopards qui ont violé une fille, qui viennent se pavaner, qui menacent de la tuer, et qui terrorisent les parents de cette gamine. Et de l'autre côté, un père de famille qui a eu un acte que je trouve parfaitement compréhensible. Il a tué l'ordure qui a violé sa fille. Ce type est en prison depuis un an, sa famille est brisée, lui est ruiné, et sa femme est devenue folle, et sa gosse est perdue. On se dit, quand on est en face de ça, qu'on est vraiment dans un système d'ordure.
Serge, si je puis vous couper, en pareil cas, la griffe ne peut agir, vous le savez, ne peut pas agir. La griffe ne peut agir que dans le cadre de la loi dite antiraciste, la loi Rocard des Sceaux. Mais elle lutte aussi, en dehors du cadre, du strict cadre judiciaire et juridique, pour les libertés, notre identité française et contre le racisme anti-français, donc sur le plan concret. C'est là que je souhaite que beaucoup des auditeurs qui m'écoutent nous rallient. Mais nous sommes prêts à aider, dites-le aussi à cet avocat, aider concrètement. Moi, je suis prêt à aller à la Seine, organiser ce qu'il faut comme réseau de solidarité. Ça, c'est notre travail.
Alors, Bernard,
dites
le
à cet
problème...
avocat qu'il me téléphone et que je suis prêt à voir avec lui, dans l'intérêt de la famille, ce que nous pouvons faire.
Le problème, c'est que quand cette affaire s'est produite, parce que là, on est au cœur d'une grande d'une manipulation qui est exemplaire. Quand cette affaire a éclaté, évidemment, tous les gens, spontanément, les gens du Front National, il y en a beaucoup à Toulon, se sont portés au secours, à l'aide de Ferrer. Ils ont commencé à organiser un comité de soutien. Et je disais tout à l'heure que ce comité de soutien a été brisé par la justice, mais j'ai pas tout expliqué. Car ce qui s'est passé, c'est que d'une part, il y a eu cette enquête qui a jeté la suspicion sur la famille d'une façon très maligne avec la complicité de la presse locale. Mais surtout, on a dit à Ferrer...
Je sais bien.
Voilà.
C'est pour ça que au début, pour le dire très clairement ici, j'avais proposé nos services. Mais j'ai compris pourquoi on ne les prenait pas, parce que c'est chaque fois pareil, presque chaque fois pareil. On dissuade les gens de recourir à nous, alors qu'ils ne risquent rien. Mais ça n'est pas parce que le pauvre gars, dans un premier temps, a suivi des mauvais conseils, qu'au point où il en est aujourd'hui, nous n'accepterions pas, nous, bien sûr, de continuer notre offre, parce que aussi bien dans le cas de la petite de Roubaix, de la petite Sarah, que dans le cas de Ferrer, eh bien, je trouve que nous avons un devoir de solidarité, de combativité nationale contre ces gens victimes du racisme des bandes occupantes.
Et alors, vous m'avez apporté un document qui m'a surpris parce que...
On parlera de l'islam peut-être un tout petit peu tout de même, on en dira peut-être un mot, mais après si vous le voulez revenir. Oui, parce qu'on a parlé de l'Irak, j'aurais aimé donner une précision. C'est qu'une chose est évidemment de ne pas accepter la boucherie en Irak, une chose est de faire une politique avec l'Irak, l'Irak baasiste, dont j'aimerais bien qu'elle ne vire pas donc à l'islamisme, ou qu'il ne vire pas, je ne sais pas si on dit il ou elle pour l'Irak, une autre chose est de la politique par rapport à l'islam déferlant chez nous. Et voilà pourquoi je mène en ce moment, vous l'avez dit, toute une campagne de conférences. Les salles sont combles et nous parlons jusqu'à une heure très avancée de la nuit souvent sur ce thème de la France face aux défis islamiques. Parce que les élites politiques, entre guillemets élites, ne savent pas du tout ce qu'est l'islam. J'ai interrogé tous les conseillers régionaux de Midi-Pyrénées il y a peu. J'aurais demandé qui parmi vous a lu le Coran. aucun. Ils sont aussi ignorants de ce qu'est l'islam que leurs prédécesseurs l'étaient de ce qu'était le nazisme. Ils n'avaient pas lu une seconde de Mein Kampf. Or, il va de soi que l'islam, ça n'est pas du tout une religion. Ce n'est pas du tout une religion. Savoir cela, ça éviterait à certains responsables politiques de dire des conneries et de parler de l'islam en disant c'est un problème religieux. Bien sûr que non. L'islam est un ordre totalitaire, modelé par son fondateur Muhammad. Et Muhammad, c'est un guerrier, un massacreur. Hein, c'est un homme, ce n'est pas une sorte de Christ. Comme le dit la grande journaliste, la grande historienne Batyeor, israélienne, les chrétiens ont souvent été infidèles donc au message du Christ et à son exemple, mais les musulmans, non. Lorsqu'ils se partagent le butin, lorsqu'ils se partagent les femmes et les enfants, parce que, en quelque sorte, pour le monde musulman, qui n'est pas musulman est un infra-humain. On peut certes donc pactiser, mais globalement la conception de l'islam qui n'a jamais été remise en cause, c'est la division du monde en deux, le Dar el-Harb et le Dar al-Islam. Le Dar al-Islam, c'est le territoire de la soumission, le Dar el-Harb, c'est le territoire de la guerre, et sur ce plan-là, j'ai longuement étudié l'islam. Je pourrais maintenant, après avoir conféré avec le père Moussali, qui est le plus grand scientifique de l'islam, le meilleur connaisseur de la langue arabe, pendant 20 ans il a enseigné à Alger, après avoir écouté les cours de Dominique Turvois, qui est le plus grand spécialiste à l'université de Toulouse Mirail, j'affirme que tout ce que l'on donne, d'une manière qui peut apparaître simpliste, correspond à la réalité. Et que chaque fois que se crée en France une grande mosquée, c'est une enclave donc étrangère à notre identité nationale qui se met en place. Oui, nous avons à relever le défi de l'islam. C'est un défi politique, c'est un défi social, et ce n'est que partiellement un défi religieux qui pourrait être relevé si l'on méditait la parole du père de Foucault, « Ces peuples seront chrétiens ou nous chasserons ».
Vous écoutez Radio Courtoisie.
À propos de l'islam, je voudrais évoquer la position actuelle de Fillon, je crois, qui envisage de faire... c'est pas Fillon, donc qui est-ce qui envisage de faire modifier la loi sur le financement des édifices et des organisations cultuelles par l'État, c'est-à-dire de revenir sur...
Je peux vous causer de cela, puisque c'est en fait la philosophie de la discrimination positive telle qu'exprimée par une de mes filles a trouvé ça sur internet, par les clubs de Monsieur Juppé à Bordeaux. Il faut faire franchir à l'islam le retard qu'il a accumulé, cite, par rapport à la religion catholique. Et voilà pourquoi la gauche devrait quand même s'indigner. On va violer, mais de la plus mauvaise façon qui soit, une loi contestable, certes, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Mais aujourd'hui, donc, au profit de l'islam. C'est une vieille constante maçonnique. C'est
celle qui nous a fait perdre l'Algérie.
C'est celle qui nous a fait perdre l'Algérie. On continue chez nous. Et ce qu'a mis en place M. Sarkozy est totalement aberrant. Nous pourrions le commenter d'une manière un peu scientifique.
C'est un cadeau pour en prendre fou.
Celui-là est pure folie. Il a plaqué sur la réalité islamique une vision incertaine qu'il peut d'ailleurs avoir de la religion catholique ou de la religion juive. Parce qu'une chose est le christianisme, une chose est le judaïsme, une chose est l'islam. Ce sont des religions donc qui peuvent avoir des coïncidences, mais enfin fondamentalement différentes.
Et alors je disais tout à l'heure que vous avez pris une initiative qui est inattendue, parce que on entend toujours dire oui mais au fond bon la droite nationale vous cantonnez dans une opposition stérile, vous prenez jamais proposition, vous décriez tout ce que font les gens qui sont au pouvoir, mais vous n'apportez aucune proposition concrète, c'est-à-dire vous vous contentez de dire bah si on est au pouvoir, à Dieu ne plaise, on fera ça. Or là, qu'est-ce que je vois? Je vois un texte qui est tout simplement un projet de proposition de loi, si j'ose dire, qui s'appelle une loi pour la vie. Alors, la première question qui se pose, c'est pourquoi avez-vous fait, avec votre équipe, je vois qu'ils ont participé à l'élaboration de cette loi avec vous, de cette proposition de loi, Jeanne Smith, Georges-Paul Wagner qui est Mm-hmm. Et on est en quelque sorte le rapporteur, si j'ose dire, on serait le rapporteur. Pourquoi avez-vous fait une loi comme une proposition de
oui,
loi ?
Parce que c'est pour répondre à l'observation que vous faisiez à l'instant même. Parce que faire de la politique peut avoir plusieurs finalités. Bon, une finalité essentielle qui est le bien commun. Mais faire de la politique, comme on dit aujourd'hui, ça veut dire essayer d'avoir des élus et avec ces élus de transformer les lois. Donc, normalement, c'est comme ça que doit se développer l'action politique. Alors, le reproche nous est fait, oui, très bien, vous émettez des principes, mais concrètement, que feriez-vous ? Et je me suis aperçu que, depuis des dizaines d'années qu'existe la loi Veil, je le dis sans méchanceté, elles ont fait un travail héroïque, les associations de défense du respect de la vie n'avaient pas proposé le texte qui permettrait d'être voté à l'Assemblée, et qui obtiendrait, je pense, l'assentiment d'une majorité de Français. Alors ce texte, le voilà, il va être dans nos locaux sous 48 heures ou 72 heures. Nous avons pour vocation la griffe et Chrétienté Solidarité, parce que nous ne sommes pas riches, nous nous sommes mis, les deux organisations se sont mises ensemble pour l'éditer. Nous avons une volonté, c'est de le diffuser au moins à 100 000 exemplaires, et peut-être de le traduire en plusieurs langues. Pourquoi ? Parce que je crois que le travail est tellement bon qu'il l'intéressera nos amis espagnols, italiens et autres. C'est un travail essentiellement commis par Thierry Martin, avec une méticulosité remarquable et avec évidemment beaucoup de discussions, beaucoup de travail, donc de toute une équipe et notamment effectivement notre ami maître Georges Paul Waldner, qui est un des deux présidents d'honneur, l'autre maître Jean-Baptiste Biaggi de la Griffe, avec Jeanne Smith et encore d'autres, et votre serviteur. Alors, quelle est l'idée centrale ? Eh bien, c'est que il faut faire une loi positive pour la famille, pour encourager la famille. Parce qu'enfin, on parle des retraites. Pourquoi est-ce qu'on va avoir beaucoup de mal à payer les retraites ? Ben parce qu'il n'y a plus assez de petits-enfants. Un point, c'est tout. Et que tout le drame français, il est là. Il découle de ce que j'avais appelé le premier, pardonnez-moi cette immodestie, en 1976, le génocide français. Et cette loi n'est pas une loi que, comme la loi précédente, qui n'avait pas de générosité, de vindicte contre les jeunes filles et les jeunes femmes qui peuvent se laisser aller à un acte de désespoir. Nous pensons qu'il faut, montrer, avec tout ce que nous savons de la science aujourd'hui, que l'avortement, c'est le meurtre d'une personne qui est parfaitement identifiée dès la première seconde de la conception. Donc, mais nous ne voulons pas condamner. Nous voulons condamner les avorteurs, mais nous ne voulons pas d'une loi qui condamnerait les jeunes femmes qui, au fond, se seraient laissées conduire par ignorance ou par désespoir à ce geste de mort. Voilà l'idée centrale, mais nous ferons bientôt une conférence de presse et de grandes réunions autour de ce projet de loi dont je pense que beaucoup de députés le liront avec intérêt, et je ne doute pas que pour ce qui est du mouvement politique dans lequel je milite, il ne constitue une contribution très importante.
Il y a un débat, là, même au sein du mouvement, il y a une tentative de...
Ben, oui, je crois qu'il y a eu, mais je ne commenterai pas ici, quelques propos qui méritent rectification, parce que jusqu'à présent il n'y avait pas de débat, il y avait une unanimité, et j'espère que cette unanimité continuera, parce que quand on dit que l'avortement est un acte abominable mais qu'il ne faut pas le combattre, c'est quelque chose de parfaitement contradictoire. Ou il n'est pas abominable et on ne le combat pas, ou bien il est abominable et il faut donc trouver une solution. Et donc ceux qui commettent l'acte abominable de faire avorter doivent être sanctionnés. Et encore une fois, il ne s'agit pas, compte tenu de la société que nous connaissons, de conduire au désespoir les jeunes femmes dont je parlais tout à l'heure.
Alors je signale que cette brochure, qui s'intitule « Une loi pour la vie », est en vente au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, 75005, qui est également l'adresse d'ailleurs de Chrétienté Solidarité et de la Griffe.
Et de la Griffe, oui. Hein,
donc 70 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. Et la brochure « Une loi pour la vie », si vous voulez participer à sa diffusion, vous pouvez commander un exemplaire pour 2,50 €, 10 exemplaires pour 20 €, 20 exemplaires pour 30 €, 50 exemplaires pour 50 euros, et à partir de 1000 exemplaires, on vous envoie un chèque.
Voilà, bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le premier prix, c'est le problème du franco de port, il nous faut payer les frais de timbre. Nous, je fais appel vraiment pour qu'à partir de la semaine prochaine, tous ceux qui m'écoutent viennent en prendre, viennent en acheter pour en diffuser autour d'eux, parce que pour qu'ils puissent distribuer à leur maire, à leur curé, à leur notaire, à leurs voisins, et que ce document, encore une fois, vraiment de très grande qualité, permette de repositionner le débat contre l'avortement.
C'est pas du tout un, il faut préciser que c'est pas du tout un bavardage, c'est pas du tout un papier de réflexion ou d'opinion. Ça n'a rien à voir. C'est un projet de loi. Alors par exemple, j'ouvre au hasard. Enfin, je veux pas prendre un paragraphe trop long, mais voilà, article 10. Cet article fixe les moyens opérationnels d'une politique d'accompagnement de la grossesse et de la femme enceinte. Il s'agit de faire mettre en œuvre par les collectivités publiques et le concours de tout organisme spécialisé, privé ou public, un soutien très large et multiforme à la future mère, à la jeune maman. L'état du droit renverse ainsi la charge de la preuve. À la place de la culture de mort organisée, l'État, fidèle à sa mission de serviteur du bien commun, met en place une politique de vie généreuse vis-à-vis des femmes, de toutes les femmes. Et alors après, il y a l'article 11, l'article 12. À chaque fois, c'est remarquable.
Je crois que techniquement, je voudrais dire parce que
proposition de loi,
je crois que c'est du très beau travail et encore une fois, les auditeurs jugeront par eux-mêmes, ils feront un effort pour lire cela et pour le faire lire.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Toujours,
et ça passe. Les auditeurs,
ils ont la parole dans une minute. On va leur donner tout de suite, parce que justement, je pense que leurs questions vont amener à évoquer la dernière question que je voulais vous poser, Bernard Anthony. Alors allons-y.
Nos auditeurs nous écoutent mal, d'ailleurs. Serge Beckett, a-t-il honte de parler de viol collectif? Il a employé le terme de tournante. Je ne comprends pas que Victoria n'ait pas réagi. Mais vous avez parlé de tournante parce que c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'horreur, et vous avez tout de suite expliqué que c'était un viol collectif, et vous avez très bien expliqué ce qui se passait.
J'ai la faiblesse de croire que si c'est les seuls arguments qu'on a à opposer à ce que je dis, c'est un peu dommage. Je constate que chaque fois que je fais une émission, des auditeurs interviennent pour dire vous avez employé ce mot-là. Ben, j'emploie le langage qui est maintenant le langage des médias, parce que on est bien obligé de se faire comprendre, de résumer brièvement ce dont on veut parler. Alors si vous voulez que je dise viol collectif par des bandes maghrébines, je peux appeler ça viol collectif par des bandes maghrébines. Cela dit, ça se résume dans tous les journaux, dans tous les médias, par le mot tournante. Bon, c'est comme ça.
Tout le monde sait ce que ça veut dire.
Comme ça, tout le monde comprend.
Alors, monsieur Anthony, vous vous faites des illusions. Les islamistes ont gagné en Côte d'Ivoire. Les forces vitales sont au nord. Je ne vois pas comment on pourrait redresser la barre.
Je ne me fais aucune illusion. Tout simplement, je regrette une politique qui conduirait justement à ne plus se faire d'illusions. Mais en l'occurrence, il est toujours possible d'inverser le courant des choses. Je rencontre pas plus tard que demain des Ivoiriens à Paris avec lesquels je m'entretiendrai de cette chose-là.
Ce matin sur LCI, Michel Rocard a défendu...
Il est pas mort, il est encore.
Non. Il est toujours aussi fumeux. Ce matin sur LCI, Michel Rocard a défendu l'accueil de Mugabe en faisant valoir que les critiques contre cet accueil viennent des anciens colonialistes. Or, son chef de cabinet était Jean-Paul Huchon, ami personnel de Pol Pot. Rocard a prêché autrefois le modèle yougoslave comme modèle économique. Quelle peut être sa crédibilité?
Admirable réflexion. On est d'accord 100%.
C'est un cas pathologique, c'est tout.
Félicitations à Bernard Anthony. Les Serbes ont perdu le Kosovo en attaquant la Croatie. Ils se sont trompés d'ennemis. L'Allemagne et le Vatican avaient raison en 1991. Pourquoi l'Irak n'aurait-il pas le droit de survoler les USA et d'aller inspecter les réserves d'armes de destruction massive?
Il y avait un truc très rigolo.
La Fontaine a répondu, selon que vous soyez puissant ou misérable.
Il y avait un truc très rigolo, c'est simplement les quatre arguments, les quatre définitions du pays, du pays voyou. Quel est le nom en anglais?
Rogue State.
Rogue State. Quelqu'un a dit, voilà, les quatre définitions, c'est premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, et ça s'adapte parfaitement à deux États qui ne sont pas considérés comme des rogue states, dont les États-Unis. L'autre, je ne le dis pas parce qu'on va encore m'accuser
d'accord.
Je ne veux pas, non, pas prêter le flanc à la critique.
Mais moi, je vais le dire, c'est Monaco.
Bon, alors, je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Attention, parce que Régnier, il a le procès facile. Hein.
Monsieur Griotteret est d'accord avec Monsieur Madeleine à propos de la guerre en Irak.
So
il est d'accord.
Madame Michu aussi est tout à fait d'accord avec ces messieurs. So what?
Et Maurice Gédantec se répand sur le net pour insulter la France et l'Allemagne avec une grossièreté incroyable au nom de ses amitiés américaines.
Et qui est Maurice Gédantec? C'est ça la question.
C'est un écrivain de policier que beaucoup dans notre famille de pensée considèrent comme un compagnon de route. J'espère qu'ils seront calmés.
Mais le professeur, le professeur Millière aussi a publié des articles hallucinants et hallucinés.
Mon ami Millière qui m'a insulté sur cette antenne. Sans que je puisse répondre, comme c'est curieux.
Alors lui aussi, ils font partie des écraseurs d'Irak. C'est tellement facile, vous comprenez. Moi d'abord, la semaine dernière, tiens, je voulais dire un mot à ce propos. La semaine dernière, quelqu'un me dit, mais puisque vous êtes tellement pro-irakien, je m'en fous de l'Irak, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais si vous êtes tellement pro-irakien, pourquoi n'allez-vous pas servir de
bouclier humain?
D'accord, je veux bien, mais je vous retourne la question. Puisque vous êtes tellement pour casser la gueule aux Irakiens, pourquoi vous n'allez pas faire ça vous-même? Hein? Là, ça, c'est... Moi, je verrais bien Guillaume, Garello, Griotteret, Madeleine et tous s'engager dans des, comment on appelle ça, des brigades internationales pour aller botter le cul de Monsieur Saddam Hussein. Qui y aille. En même, je participe au financement du voyage. Tiens, je donnerais bien 10 euros pour les voir aller là-bas. Je paye pas le retour, c'est tout. Parce que... Voilà.
J'ai entendu cet après-midi sur France Inter que les Irakiens pourraient acclamer les Américains s'ils entraient en Irak pour ne plus être sous le joug de Saddam Hussein.
D'ailleurs, les Japonais à Hiroshima et à Nagasaki aussi.
Oui, ils acclamaient.
Mais surtout à Okinawa.
Il y a une chose qui m'a.
Des falaises.
Une chose qui m'a frappé hier, c'est que d'un seul coup, ça faisait longtemps qu'il avait disparu à bord de sa mobylette, il était parti à travers la Pampa. Afghane, le Mollah Omar, et non pas le Mollah Roma, vous vous souvenez qu'il était parti à motocyclette, on nous avait expliqué, pétaradant avec probablement Ben Laden sur le Tansad, et voilà que d'un seul coup il réapparaît et il fait un discours pour dire qu'il faut absolument casser la gueule aux Américains, etc. Et que tous les pays qui montrent la moindre solidarité avec les ennemis américains seront violemment fustigés par l'islam. Je veux bien, je voudrais qu'on m'explique comment ce type qui était parti à motocyclette à travers le désert de la Pampa se retrouve tout d'un coup. Alors l'explication, je crois qu'il a échangé sa mobylette contre un magnétophone.
Dans le même ordre d'idées et plaisanterie mise à part, j'entends aujourd'hui sur RFI que la fameuse sortie de Ben Laden, la dernière, si opportune pour les États-Unis pour leur permettre de tracer un signe égal entre Al-Qaïda et l'Irak laïque. La chaîne Al Jazeera était réticente à la diffuser. Elle voulait en contrôler l'origine. Et il est établi qu'elle a subi des pressions américaines pour diffuser cette déclaration.
Et accessoirement, un spécialiste de la sémantique a dit cet enregistrement est faux. Et il est truqué.
Il est assez rare que nous puissions nous féliciter d'action diplomatique de notre gouvernement. Oui. Mais de même, souvent, nous avons pu être chagrins par les nouvelles qui nous venaient de Rome. Et là, c'est le catholique qui parle. En l'occurrence, je crois, et ce n'est pas la première fois, que la diplomatie vaticane a fait ce qu'il fallait faire. Et je me félicite, là, d'être en parfait accord avec la réception par Jean-Paul II de Tarek Aziz, qui est un homme à la tâche bien difficile.
Question pratique. Pouvez-vous rappeler, pour la manif du Trocadéro, on se réunit à quel endroit?
À partir de 19h, place du Trocadéro, parce que on nous a interdit d'être trop près de Monsieur Mugabe. Oh ben, place du Trocadéro, vous verrez l'esplanade des droits de l'homme. Et nous défendons les véritables droits
c'est
de l'homme.
C'est demain.
C'est demain à 19h.
Ce soir à 20h, en fait. Ce soir à 20h, Roger fait un métinge
à la Salvagram,
oui.
20h, organisé donc par le CNC.
Roger, le patron du Balto?
Non, Roger Hollande, quand on dit Roger entre nous.
J'en dis Roger.
C'est Roger.
Nous avons 600 000 auditeurs.
C'est notre ami.
Ils connaissent tous Roger.
Légendaire Roger Hollande.
En présence de Jean-Marie Le Pen.
Pour défendre l'honneur de l'armée française. Ouais. Pouvez-vous redonner les coordonnées de la griffe?
Oui. 70 boulevard Saint-Germain. Et je donne le numéro de téléphone, c'est le 01 40 46 96 31. De préférence le mardi, le mercredi, le jeudi, parce que Hélène Sabatier, notre secrétaire générale, est là avec sa bienveillance habituelle à partir de 9h30 du matin. Héroïque, parce qu'elle me supporte.
Oui, ça, c'est évidemment, ça déjà, c'est un effort qui mérite le paradis. Mais en plus, elle est formidable.
70 boulevard Saint-Germain, 01 40 46 96 31.
Que peut-on faire pour la famille Ferrer?
Pour l'instant, je pourrais donner l'adresse de l'avocat. Pour l'instant, j'ai parlé de cette affaire parce qu'elle me paraît emblématique, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire. On peut certainement aider Madame Ferrer en lui envoyant des sous, parce que je sais que la situation est tragique. Mais l'avocat, c'est Maître Giudice Shelley à Toulon. Je n'ai pas ses coordonnées là, mais si on m'envoie un petit mot...
Il est dans l'annuaire.
Au Libre Journal, où il est dans l'annuaire, où on m'écrit...
Donc sur le Minitel.
Nous pourrons relayer cela avec nos jours. Donner un mot d'ordre,
voilà.
Il faut que cet avocat nous dise concrètement ce qu'il peut attendre d'une action de solidarité.
Voilà.
Il faut qu'il aille au-delà de sa simple fonction d'avocat.
Et quelle est l'adresse du site internet sur lequel on peut trouver le texte du projet de loi pour la vie en forme imprimable, fichier PO...
PDF.
PDF, pardon.
PDF. Vous avez ça
Je déteste les sigles.
Ah oui, mais ça... Bon, vous l'avez pas ? Moi non,
non
plus. Je suis pas très.
Non, je ne.
On fait Agrif dans un moteur de recherche,
voilà,
et puis on va le trouver. Hein.
Oui,
Agrif, A-G-R-I-F, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Mais cela sera à disposition à partir de la semaine prochaine. Il faut donc attendre quelques jours et on trouvera tout cela, bien sûr, et notamment sur le site internet de Chrétienté Solidarité. Donc je tiens, par la voix du micro, je sais que nos responsables m'écoutent, s'ils peuvent bien s'occuper de cela, et nous ferons ensuite savoir. Mais ton téléphone au 70 boulevard Saint-Germain, au 01 40 51 74 07 pour le Centre Charlier, ou le numéro que j'ai donné précédemment pour la Griffe.
D'autres questions en dehors de celles que je vais relayer.
C'est en dehors du sujet.
Bon, alors, pour finir, il nous reste 5 minutes, et après, on piquera 10 minutes à...
J'oubliais, je le dis d'ores et déjà, l'important forum social d'Orange.
Ah.
L'année dernière, ça a été un très grand succès, et cette année, nous recommençons à l'Ascension le forum social d'Orange.
Oui, l'État français est incapable de protéger la petite Sarah alors que Perben a le culot de préparer une loi dans laquelle on va nous expliquer que la police va protéger les truands et voyous repentis. On ne protège que les salopards dans ce beau pays. D'autre part, on a appris aujourd'hui que dans un petit village de Normandie, on vient de réquisitionner, alors c'est hallucinant cette histoire, on vient de réquisitionner un magnifique château qui s'appelle le Château des Vents, la Croix des Vents, je crois, avec salle de bain en marbre, piscine, etc. Et qu'on va loger là-dedans... combien ?
8.
8 délinquants. 8 délinquants et 27 personnes d'encadrement. Parce que les 8 délinquants doivent être gardés en permanence 24 heures sur 24. Alors, c'est un scandale invraisemblable.
Écoutez, Serge, je ne partage pas votre indignation, parce qu'en fait, vous venez d'annoncer une nouvelle formidable. Le problème du chômage est résolu.
S'il a vu de château, pourvu que ça dure, mon ami.
Le problème, c'est que, effectivement, s'il faut mettre 4 employés, 4 fonctionnaires par délinquant, on va vite résoudre le problème du chômage.
C'est résolu, voilà. Vous voyez.
Oui, alors, en 3 minutes. Est-ce que vous voulez donner votre sentiment sur, appelons ça l'affaire, la crise, le prurite qui agite certains milieux, ou plutôt la presse
Certains ennemis. Journaux, vous voulez dire.
Oui, c'est ça.
Oui,
vous voulez en parler ou...
J'ai envoyé...
Moi, je dis que j'en parlerai pas dans le livre.
Je ne me dérobe aucune question, puisque des questions, il y a... vous savez, j'ai envoyé hier un communiqué dans lequel... Je ripostais un article, j'avais lu une photocopie, parce que je ne lis pas ce journal, de Libération du désinformateur Forcari, avec lequel je m'expliquerai devant les tribunaux. Et je disais que même muni d'un masque chirurgical antibactérien médiatique, je ne souhaitais pas le rencontrer, puisque évidemment tout ce qu'il me faisait dire, penser, etc., était pure supputation. Pour le reste, eh bien, je ne mettrai pas ma langue de bois, enfin je n'emploierai pas la langue de bois, je n'en ai jamais fait. Je suis toujours très chagrin des crises. Et on trouvera dans le prochain numéro de Reconquête un article dans lequel je m'exprime sur le sujet. Cela mérite nuance. J'ai bien pesé tous mes mots. Il s'agit de 10 considérations. conversation sur la politique et j'invite au rendez-vous de l'amitié française. Ce que je crois, c'est que le Front National est porteur de grands espoirs pour le pays. Il a déjà accompli de grandes choses. Peut-être faudrait-il qu'il se... Je suis un homme d'entreprise aussi, je ne l'oublie pas. Pendant que j'ai été, pendant plus de 10 ans, directeur des ressources humaines d'une grande entreprise, je faisais fonctionner un centre de résolution des conflits. Il n'y a jamais eu une seconde de grève. Et je crois donc que certaines querelles pourraient être évitées, à condition qu'on veuille bien substituer les débats d'idées aux querelles de personnes. Je suis persuadé, je n'ai jamais employé l'injure quant à moi. J'étais fermement opposé donc au projet de M. Maigret, fermement opposé aux idées de la nouvelle droite de M. Pierre Vial et compagnie. Ça n'enlève pas la courtoisie. Donc, je pensais qu'à l'époque, il fallait débattre avec des gens comme Vial, qui vraiment n'avaient pas nos idées. On aurait bien vu qu'ils ne correspondaient pas au programme du Front National. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui me paraissent vraiment subalternes. Et ça serait dramatique que des querelles puissent encore nous affaiblir. J'adjure, mes amis, et jusqu'au plus haut niveau, de faire en sorte que ces querelles-là ne transparaissent pas, parce que nous n'avons aucun intérêt à cela. Mais je défendrai bien sûr mes idées, si c'est les idées qui sont en cause, comme je l'ai fait tout à l'heure, après le journal, l'article du journal Le Monde.
Merci Bernard Anthony. On se retrouve dans une minute, parce que je vais piquer donc quelques minutes à Daniel Amiche avec son autorisation et même sans, pour présenter le contenu du Libre Journal sur papier, mon Libre Journal à moi et à ma petite femme que j'embrasse, tiens, à propos. Voilà, message passé.
Passer la soirée en notre compagnie à 21h tout à l'heure dans les soirées musicales Série Jazz et à 22h les musiques de films avec Claudio. Ce soir, la bande originale du film Cyrano de Bergerac et puis tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Excellente soirée, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé en seconde partie par Daniel Amiche avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 19 février 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Alors c'est un malin ce Daniel Amiche, il est vraiment, il est retors. S'il a fait entrer le docteur Dor, j'ai fait entrer le docteur Dor, il sait bien que je vais craquer parce que... C'est
oui,
ça,
c'est la tactique oui, c'est la tactique du voleur chinois.
Oui, c'est la tactique du voleur chinois, ça.
Moi aussi je suis malin Serge, vous savez, j'ai eu deux minutes là pour vous demander la permission d'embrasser Daniel de Becquetch à mon tour et je le fais de grand cœur parce que quand on secoue les auditeurs pour qu'ils envoient des chèques d'abonnement, bah, c'est elle qui les reçoit, qui dépouille une quantité de courrier invraisemblable, qui remplit des fiches, un seul abonné et c'est une fiche d'environ 300 signes qu'il faut remplir avec ses petits doigts. Alors moi aussi je l'embrasse bien fort. Je suis très malin aussi parce que en écoutant la liste des fréquences de Radio Courtoisie, j'ai pu agresser à nouveau dans le secret du studio hors antenne Bernard Anthony, comme j'estime que c'est mon travail. Il nous a dit tout à l'heure que Radio Courtoisie ne parvenait pas dans sa province. Eh bien, j'ai pu lui indiquer qu'elle y parvenait, et comment ? Par TPS, par le satellite Hotbird. Et puisque sa fille nous l'a confié tout à l'heure, est branchée sur Internet, sur le site tv-radio. Prenez note.
Pour moi, c'est très compliqué. Je ne suis
mais pas pour
paysan.
Elle, du pas Danube. Pour elle.
Non, du Danube, plutôt de
Bigorre aussi. Non, Bigorre. Du Danube. Allez, on fera un effort.
Merci. Je passe, toujours de plus en plus malin, je passe au sommaire. Victoria, ne vous affolez pas, je pense que...
Je cherche le truc.
Franck pour... m'aurait fait signe si je n'étais pas audible. Je crie assez fort, Franck, oui.
Pour
Franck
vous
est d'accord.
Déstabiliser.
Alors, vous voyez, bah, c'est un échec, je ne suis pas déstabilisé. Franck, qui est maître en la matière, me fait signe que je crie assez fort, donc je continue et je ne tiens plus compte à retrouver autre chose pour
de
me déstabiliser.
Grimaces.
Voilà. Alors, j'ai donc quelques minutes, merci Daniel Amiche, pour présenter le nouveau numéro 286 du Libre Journal imprimé. En réfléchissant à la façon dont j'allais présenter ce numéro, je me faisais la réflexion suivante, c'est qu'il est extrêmement curieux et extrêmement intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, de voir à quel point notre petit journal... Donc je peux avouer qu'il ne compte que quelques milliers d'abonnés, ou est-ce que j'ai gaffé ? Non, je n'ai pas gaffé. Nous disons la vérité dans tous ces domaines. À quel point notre tout petit journal, avec ses tout petits moyens, peut-être...
On peut dire qu'il compte beaucoup de milliers d'abonnés, puisque vous savez comment comptent les primitifs ? Un, deux, beaucoup.
Voilà.
Donc il y a beaucoup de milliers d'abonnés.
Beaucoup de milliers d'abonnés. Avec ses petits moyens... peut se trouver en avance, non seulement en pointe, mais en avance, et en avance de plusieurs semaines et de plusieurs mois sur la grande presse. Je n'en prends qu'un exemple, puisque je n'ai quelques minutes. Un exemple dans le numéro 286, donc que nos abonnés vont recevoir demain, c'est celui de la campagne francophobe, de la campagne anti-française qui se déroule aux États-Unis. Elle est découverte depuis quelques jours, la grande presse découvre ça, et hier, par exemple, sur France Inter, j'ai entendu une heure qui était très bien faite, où on interrogeait des Français résidant un peu partout aux États-Unis sur cette campagne de francophobie extrêmement violente. Mais nous, le petit Libre Journal, voilà trois mois, fin novembre, début décembre, que nous avons non seulement évoqué cette campagne de francophobie, mais que nous avons publié des pages entières d'extraits du New York Post, d'extraits du Washington Times, de dessins absolument scandaleux d'une violence, d'une grossièreté invraisemblable contre la France, et que donc nos lecteurs sont informés trois mois à l'avance. Alors il y a sûrement des points sur lesquels nous sommes à la traîne, mais voilà un autre point sur lequel nous sommes parfaitement en phase avec la grosse presse. Et je veux parler de cette grande question, de ce grand débat, où va la droite nationale ? Serge, est-ce que vous avez remarqué ? Nous n'avons que quelques jours d'avance au lieu de trois mois d'avance sur la grande presse pour débattre, pour organiser le débat à notre façon, qui n'est pas celle de l'immonde ni de l'aberration, à notre façon, nous avons lancé quelques jours avant l'immonde et l'aberration le débat « Où va la droite nationale ?» Et bien entendu, nous n'avons pas exactement les mêmes interlocuteurs que l'immonde et l'aberration, mais nous avons, les uns après les autres, toute une série de dirigeants de premier plan de la droite nationale qui viennent nous confier leurs sentiments, leurs prévisions, leurs impressions. J'ai annoncé il y a 15 jours une surprise considérable avec la première intervention, celle de Bruno Maigret. Nos lecteurs savent de quoi je veux parler. Et je peux simplement leur annoncer que Bruno Maigret lui-même a été tellement surpris par la surprise qu'il nous avait ménagée qu'il a demandé à revenir en deuxième semaine et que nos lecteurs, nos abonnés ne seront pas déçus cette fois non plus. Pour le numéro 286, nous avons une contribution, disons un peu moins surprenante, un peu plus classique de la part de Bruno Gollnisch.
Très intéressante, nonobstant.
Et classique, mais extrêmement intéressante. Nous avons choisi de titrer cette contribution « Je ne m'inquiète pas des clubs ». Et c'est notre façon de n'être pas complètement étranger à d'autres débats organisés par d'autres journaux en fonction d'autres intérêts. Alors je terminerai en disant deux choses, en répondant à ce nouveau message. Une fois de plus, une auditrice, après d'autres auditeurs, me demande pourquoi Limonov est notre Dreyfus. C'est le titre que nous avons donné à mon article en défense de Limonov.
Ça fait pas mal chanter ce titre.
Dans le numéro 5. Donc je l'ai bien choisi, ça a déstabilisé. Je ne me soucie pas de déstabiliser que nos amis, que Bernard Anthony. Je veux déstabiliser ce coup électoral.
Voilà. Pour les nouveaux auditeurs, je tiens à dire que vous n'êtes pas arrivé, cher Patrick.
Je l'ai avoué spontanément tout à l'heure, et je le répète. J'ai essayé, je n'y suis pas parvenu. Donc il y a des auditeurs qui sont des lecteurs déstabilisés par le fait que j'ai dit que Limonov était notre Dreyfus. Alors, je répondrai simplement que pour nous, et ça a été démontré devant le tribunal de Saratov, Limonov est innocent de ce qu'on l'accuse, comme leur Dreyfus était innocent pour les gens qui le défendaient, et que c'est pour nous un exemple, un personnage exemplaire. C'est une statue comme il l'a été pour un autre courant de pensée il y a 100 ans. C'est l'exemple. Et je citerai simplement la formule de Patrick Besson. J'ai annoncé son article, son remarquable, sa remarquable plaidoirie pour notre ami Limonov, qui est bien paru dans Le Point et que nous reproduisons dans ce numéro du Libre Journal. Nous avons changé l'exergue de cet article. Nous avons choisi cet extrait de l'article de Patrick Besson qui dit « L'ultranationalisme, qu'on reproche, et c'est le seul reproche réel qu'on puisse lui faire, qu'on reproche à Limonov, l'ultranationalisme, c'est le fruit défendu. » Voilà. Alors nous sommes, nous, Limonov est notre Dreyfus, en effet, nous sommes ses défenseurs. Alors je termine en disant, donc avec l'appel au peuple habituel, ceux qui ont compris à moitié demandent un échantillon, un spécimen, ils peuvent l'avoir gratuitement sur Internet, n'est-ce pas, Bernard Anthony, à l'adresse suivante, libre-journal.fr.fm. Pour ceux qui n'ont pas Internet en couleur, ils envoient un carnet de timbres neuf, oui, Daniel Amiche,
j'ai pas dit neuf, j'ai dit non oblitéré ou à défaut du black penny.
À la bonne adresse. Ceux qui ont tout compris envoient 110 euros pour un abonnement d'un an, 3 numéros de 24 pages par mois à SDB, 4 places France Liste, 75 0010. Pour terminer.
75 0010. 75 0010.
Oh mon Dieu.
On aurait dit une publicité.
Je me crois au téléphone il y a 40 ans, mais c'est fini ça. 75 010, pareil. Pour terminer, puisque c'est le centenaire de Simenon, Serge de Beketch m'a non seulement autorisé, mais encouragé à mentionner une de mes propres œuvres que j'ai réalisée avec mon ami Charles Frassati, qui s'appelle Victor et qui est purement et simplement le développement du dernier plan inédit, abandonné de Simenon. Le titre est de lui. Il a écrit le plan et avec Charles Frassati, nous avons rempli ce plan, nous avons suivi ce plan avec beaucoup de minutie, nous avons même fait un reportage photographique sur tous les lieux dans Paris 5e, 6e, Paris 9e évoqués évoqué par Simenon. Cet ouvrage a été mis au concours, un concours organisé par la municipalité de Liège, et ça a causé un tel choc, un tel scandale dans le jury, que l'université de Liège, qui avait quelques représentants dans ce jury et qui ne pouvait pas supporter l'idée que nous soyons exclus de ce prix, a créé son propre prix uniquement cette année-là pour nous l'attribuer. Ce remarquable ouvrage, donc, dont je possède encore quelques exemplaires, on peut se le procurer en m'envoyant à moi, à mon ordre, à mon nom, Patrick Goffman, 5 euros seulement, à l'adresse habituelle, au bon soin de SDB, 4 place France Lys, 75 010, Paris.
Voilà. Alors, un mot aussi, si la réclame, permets, Daniel, oui. Parce que j'ai oublié tout à l'heure d'indiquer que le 8 mars prochain...
Tu reviens pas la semaine prochaine.
Non, je reviens pas.
Parce que moi, je reviens que le 19, quand même, oui. Mars, donc...
Bon, mais on en parlera hors micro, si tu veux ça. Le samedi 8 mars, le centre Henri-André Charlie organise la grande journée culturelle d'amitié française. Je l'ai dit au début, mais on n'a pas donné les précisions. Et ça se passe dans un endroit extraordinaire qui s'appelle les Grands Maisons à Villepreux.
Voilà, alors ça sera effectivement la journée culturelle d'amitié française, parce que les locaux permettent de recevoir plusieurs centaines de personnes, mais peut-être pas plusieurs milliers. Nous aurons là le bouquet des écrivains 2002, avec le soir, lors du grand banquet, donc un prix que nous allons offrir à quelqu'un qui nous est très cher ou très cher. Nous verrons bien. Alors là, beaucoup d'écrivains, Dillinger, Lyons Marton, Alain Sanders, Jacques Benesteau, auteur de Mensonges freudiens, le livre de l'année, à mon sens, sur la secte psychanalytique.
Le livre de la décennie.
Le livre de la décennie, je le dis vraiment, Mensonges freudiens, aux éditions Mardaga. Il vous animerait d'ailleurs le Forum Alexis Carrel, Serge de Beketch, Forum Jacques Perret, François-Marie Algou, Jamad Diran, Georges-Paul Wadner, responsable Marie-Bénédicte Anthony, c'est la génération Anthony, Olivier Poignant a été surpris de découvrir une cinquantaine de jeunes militants il y a peu autour de ma fille. Donc, ensuite, le Forum Simone Veil, la grande, bien entendu, avec Judith Cabot, Yves Daoudal, Thierry Martin, le Forum Yvan Tomasi avec Jean Viadatel, contre l'impérialisme islamique avec Richard Haddad, Roger Tebib. Vous voyez, je ne veux pas continuer. Alors, c'est le 8 mars, on peut trouver des dépliants, des tracts au 70 boulevard Saint-Germain. Je traiterai à 19h sur le fond mon sujet, la France face aux défis islamiques, et ensuite le grand banquet d'amitié française avec force trompette, flûtes et cymbales, et
les flûtes de champagne, monsieur.
Flûtes de champagne aussi, bien entendu, le champagne Gaston Révolte, publicité non payée.
Non payée, ça c'est sûr. Alors, hein. Ça, c'est absolument sûr.
Et je rappelle le numéro de la griffe, 70 boulevard Saint-Germain, téléphone 01 40 46 96 31.
Merci à tous. Daniel, merci de nous avoir concédé ces quelques minutes.
Je ne dirais pas que c'était un plaisir, mais enfin, c'est une habitude.
Il vous reste un quart d'heure.
Et aussi, je rappelle.
Ah non,
on nous a demandé ce qu'on pouvait faire pour la famille Ferrer. On nous donne l'adresse de maître Guidicelli, GUIDICE2LI, 4 rue Picot, 83 000 Toulon. Et son téléphone, 04 94 62 16 52.
Merci, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Eh bien, nous voilà pour la deuxième. Merci d'être avec nous, chers auditeurs, pour la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Becquet. Je suis content d'avoir à côté de moi, à défaut de ma petite Jacqueline.